RFI.
Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Les Égyptiens sont appelés aux urnes dès aujourd'hui pour donner un nouveau mandat au président Al-Sisi. Et avec vous, on va voir ce matin quelles sont les attentes des électeurs.
Mais la priorité de l'immense majorité des Égyptiens, c'est toujours et encore l'amélioration du pouvoir d'achat. Ce vœu émane d'abord de la cohorte des déshérités. 40% de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est aussi une nouvelle demande très aiguë de la part de la classe moyenne, notamment des 7 millions de fonctionnaires qui constituent l'un des piliers de l'électorat du président Al-Sisi. À cause du ralentissement économique qui a suivi le mouvement de la place Tahrir, les Égyptiens les mieux lotis ont vu leurs économies fondre, puis leurs revenus se déprécier. Ils ont d'abord renoncé à leurs vacances. 7 ans plus tard, ils sont toujours à la peine, doivent rogner sur toutes les dépenses du quotidien, y compris se priver de viande, témoigne un professeur.
Et pourtant, Dominique, les principaux indicateurs macroéconomiques de l'Égypte sont positifs.
Le gouvernement espère cette année une croissance vigoureuse de l'ordre de 5%. L'investissement étranger reflue, les réserves de change sont reconstituées et l'inflation qui a culminé à 35% l'été dernier commence à dégonfler. Ce sont les premiers fruits du plan d'assainissement des finances publiques appliqué pour obtenir l'aide du FMI. Une TVA a été introduite, les subventions aux produits de base supprimées et la Banque centrale a laissé filer la livre égyptienne. Les 10 milliards d'euros accordés par le FMI en novembre 2016 ont servi à consolider les comptes publics. Et en attendant que ça aille mieux en Égypte, comme dans tous les pays sous assistance du FMI, cela va moins bien pour la population qui endure l'ajustement.
Et quels sont les projets du président Al-Sisi pour ramener la prospérité ?
Alors, des projets immobiliers pharaoniques déjà annoncés, ils seront réalisés avec le soutien financier fidèle, solide, entre autres de l'Arabie Saoudite. La Chine est prête aussi à injecter 20 milliards de dollars dans la nouvelle capitale administrative qui doit sortir de terre à l'est du Caire. Le fabuleux gisement méditerranéen de Zohr, qui devrait permettre à l'Égypte de redevenir un exportateur de gaz, va aussi rééquilibrer la balance extérieure, les comptes publics. Mais ces grands chantiers, tout comme l'industrie des hydrocarbures, ne vont pas générer beaucoup d'emplois durables. Et c'est bien ce dont l'Égypte a le plus besoin aujourd'hui, c'est encore l'agriculture qui fournit le plus d'emplois.
Parce que 40% des jeunes sont au chômage.
Oui, ceux qui ont contribué à renverser Hosni Moubarak en 2011 pour demander plus de justice sociale ont les mêmes revendications en 2018, même s'ils ne les expriment plus sur la place publique. Et ils sont chaque jour plus nombreux à souffrir de cette absence de perspective du fait de la vitalité démographique du pays. La population égyptienne augmente chaque année de 2 300 000 habitants. Les experts estiment qu'une croissance soutenue de l'ordre de 5% pendant 5 ans consécutifs permettra de faire face à cette déferlante humaine sur le marché de l'emploi. Mais cela ne suffira pas pour débloquer une économie encore peu productive, très protégée et souvent contrôlée par l'armée. Changer le logiciel, ouvrir au privé sont les grands défis que le général Sisi doit relever au cours de son prochain mandat pour répondre aux frustrations de cette jeunesse.
En bref, après les coups de semonce contre la Chine, les États-Unis cherchent maintenant à négocier.
Oui, des négociations secrètes ont commencé. D'après le Wall Street Journal, Washington espère obtenir un accès élargi au marché chinois. Par ailleurs, après l'Europe et le Canada, la Corée du Sud vient d'obtenir l'effacement des droits de douane sur l'acier.
Mais aux États-Unis, Remington, l'un des plus anciens fabricants d'armes, vient de déposer son bilan.
À cause d'une dette devenue trop lourde et surtout à cause du déclin des ventes, Remington est passé hier sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillite. Après la tuerie de Sandy Hook en 2012, beaucoup d'investisseurs se sont retirés du capital de cette entreprise devenue infréquentable car le fusil d'assaut utilisé pour ce carnage dans une école sortait de ses usines.
Merci à vous, Dominique Bayard.